Et donc,
Si je peux me permettre sur ce projet-là, vous vous souvenez, enfin je fais référence à Catherine et à toi, dans nos discussions initiales, on avait un manque de volonté. Et par rapport à cela, par rapport au travail de collection, etc., ce n'est pas la mission première. Donc quand il y a un objectif comme ouvrir le LHC, ce genre de projet passe derrière, c'est évident. Mais quand en même temps on a ce genre de problématique, ça suppose d'avoir une décision. Là, dans le bon sens.
Sont proportionnels aussi au budget global. Alors, évidemment, il y a plus d'argent qui est mis là qu'au Vipsalab. Mais enfin, c'est nécessaire aussi. Donc, en fait, c'est vraiment une volonté d'accompagnement et d'intégration dans un projet global. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'exemplaire dont il faut vraiment se souvenir.
Si tu permets, je rajouterai qu'il faut saisir l'opportunité aussi. Là, on avait en ligne de mire les 60 ans du laboratoire. C'était l'occasion de raconter une très belle histoire. Et d'ailleurs, ce qui va être le 3D mapping, ça va être aussi l'histoire du CERN.
Je disais ça un peu d'une certaine façon aussi pour répondre souvent aux questionnements que se posent les laboratoires dans les universités, dans les grands établissements, et qui disent, bon, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens. C'est vrai qu'il y a très très peu de moyens, mais je veux dire, s'il y a la volonté, je crois que les moyens, même petits, peuvent être là et on peut démarrer des opérations. Tous les exemples dont vous avez parlé le montrent.
Oui, peut-être juste pour rebondir sur la dernière remarque, les événements. J'ai l'impression, mais je ne sais pas si Lyon pourrait le confirmer, que comment dire, les fonds publics, les collectivités sont plus intéressés par financer des événements que financer des fonds récurrents. Et c'est vrai qu'un événement, ça s'inaugure, ça se prépare, et puis après, bon, ça peut retomber. Et donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a plus de facilité à trouver des financements quand on prépare un grand événement que quand on demande quelque chose de récurrent. Alors, c'est peut-être une impression, je ne sais pas si vous la partagez, mais voilà, c'était juste une remarque. On est plus dans une période d'événements que d'institutions, de systèmes. Voilà.
Moi, il me semble qu'il faut saisir l'opportunité. Je suis sûr qu'après ça, la politique sera stabilisée dans ce domaine du patrimoine. C'est-à-dire que, non, ça ne retombera pas. Ça ne retombera pas parce qu'on aura éveillé, non seulement, on est un laboratoire, ce n'est pas une collectivité locale. Donc, c'est simplement une volonté interne de dire je mets epsilon, et c'est vraiment epsilon du budget, pour essayer de faire cela. Et là, ça sera un bel exemple, et ça accompagnera les visites du laboratoire, etc. Donc, il y aura une visibilité. Et je pense qu'on pourra derrière faire ce travail nécessaire pour les autres objets qui resteront certainement beaucoup plus anonymes.
Oui, c'est pour Bernard Pelker, encore une fois. Bon, tu as dit que la direction avait pris conscience de la nécessité de la sauvegarde du patrimoine, mais comment c'est organisé concrètement? Qui décide de ce qu'on garde et ce qu'on garde pas? Est-ce qu'il y a un comité scientifique?
Il
Est-ce
y
qu'il y a une
a
structure? Voilà.
depuis des années maintenant, il y a un comité du patrimoine qui gère tout, pas uniquement c'est le patrimoine, c'est les bâtiments, il y a énormément de bâtiments au CERN, etc. Donc c'est une vision en quelque sorte. Et dans cette vision, il y a la préoccupation sur ces objets anciens qui vont être traités. Tu peux l'imaginer au travers de divers filtres. Mais à un moment donné, il reste des objets. Alors les petits objets, par défaut, on va les garder quand ils présentent un intérêt. Le problème, c'est cette nouvelle politique que l'on a mise en place, c'est de les réunir dans un même lieu. Parce que sinon, on les garde ici ou là. C'est le même effet que dans les universités, que l'on connaît bien. C'est-à-dire que petit à petit, on les perd. Donc l'importance de les réunir pour les petits dans un même endroit et pour les plus gros, de leur donner des coordonnées GPS. On sait où ils sont. Et de toute façon, personne n'ira les démonter, ceux-là, normalement. Et donc, il y a, pour répondre à ta question, il y a un suivi, hein, un comité Et après, la mise en œuvre, c'est là qu'on est ouvert à une multitude de collaborations, y compris à des thèses qui pourraient se développer autour. On n'a pas assez agi dans ce domaine, en tout cas, on est très ouvert pour ça. Et on a les outils pour accueillir les doctorants.
Jean Davoigneau, ministre de l'Agriculture. Je voulais juste réagir à la fois sur ce qui vient d'être dit, puis ça fera écho avec ce qu'a dit Marie Cornu ce matin sur l'aspect monument historique. Il y a une chose qu'elle a bien précisée, et ça va faire écho à tout ce qu'on a dit là, c'est le fait que la loi sur monument historique, c'est une servitude sur la propriété. Et donc la première chose qu'il faut connaître si on demande la protection d'un objet, c'est qui est le propriétaire. Ce qui est plutôt compliqué pour les instruments scientifiques, on en a déjà discuté dans les séminaires. Mais par ailleurs, encore plus compliqué pour le CERN, parce que là, la loi monument historique, elle est franco-française, donc là, ça ne s'applique pas, on est hors champ, je dirais. Mais pour le jeu, c'est l'électroaimant de Meudon-Bellevue, ça peut être un bon exemple pour ça. Alors, il appartient au CNRS, on va dire, bon, soit. Mais donc, le CNRS n'est pas quelqu'un qui comme ça, propose des choses à la protection. Mais ce qu'il faut, par ailleurs, ne pas oublier dans la loi sur les monuments historiques, c'est que ce n'est pas au propriétaire de demander la protection. C'est à tout un chacun. Tout un chacun peut le faire. Et pas le monument, et pas non plus le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, là, agit comme un service. Et pour la collectivité, un arrêté de protection. Donc c'est des pétitionnaires. Donc ça peut être des chercheurs, comme vous qui travaillez sur les électroaimants, d'écrire au ministère de la Culture et de demander si cet objet mériterait protection. À ce moment-là, le ministère de la Culture commandite une étude, l'a fait faire. Et à ce moment-là, on se renseigne, on essaye d'avancer vis-à-vis du propriétaire, de le trouver déjà, comme par rapport à ce que je disais, pour qu'on aille jusqu'à la protection. Donc en fin de compte, quand on dit « mais pourquoi on ne protège pas ?», c'est parce que personne ne le demande, la protection. C'est ça qu'il faut voir.
Hein. Oh ben, je vais le demander.
Voilà. Non, mais parce que c'est pas au service... Les services du ministère de la Culture, ils vont demander parfois la protection, j'irai... J'en reparlerai peut-être demain, sur les objets d'art, mais pas sur ce genre de choses. Et là, c'est aux chercheurs, c'est aux pétitionnaires, c'est à tout un chacun. Pour le lavoir du village, c'est ni au maire, ni au propriétaire du lavoir de le faire. C'est au voisin qui dit, j'aimerais. Est-ce que le lavoir qui est en face de chez moi mérite protection? Donc ça, c'est une démarche volontaire de la part de tout le monde ici, des associations, etc., de pouvoir demander ces choses-là. La seule difficulté, comme je reviens, c'est qui est le propriétaire.
Merci. Oui, en complément de ce que vient de dire Jean et de ce qu'a présenté Dominique, l'électroaimant de Bellevue, on a travaillé dessus dans le cadre de la région Île-de-France, en fait, non pas de façon aussi détaillée que ce que tu as fait, hein, puisqu'on travaillait sur un ensemble d'objets proposés par un des scientifiques qui était là-bas et qui nous avait alertés sur ces objets-là. Donc on avait été avec Daniel Toulouse, Aude Ferrando, et le musée d'ailleurs a récupéré quelques objets, mais pas l'électroaimant évidemment, qui n'est pas déplaçable comme ça. Et il y a eu pas mal de projets de conservation et de sauvegarde autour de cet objet dans lequel on avait longuement discuté avec les scientifiques là-bas. Alors de là à classer, ça c'est encore, ou à inscrire, c'est un autre problème, mais c'est vrai que ça serait peut-être une façon d'aider les choses. Mais je voulais vous dire qu'au niveau du CNRS, et Daniel pourra peut-être compléter, vous savez qu'il y avait une mission qui faisait partie du réseau qui s'appelait la MRCT, ou MCRT, j'arrive jamais à le dire dans le bon sens, mais voilà. Cette mission ne s'occupe plus officiellement de la partie patrimoniale depuis un an et demi maintenant, mais on est en train de reconventionner un partenariat, enfin de refaire un partenariat avec le CNRS, justement sur ces aspects-là, entre autres, globalement. Donc peut-être que ce serait intéressant de voir si cet objet-là, parmi d'autres, peut être une proposition ou pas, j'en sais rien encore. Mais c'était pour vous dire que vis-à-vis du CNRS, non, il y a une implication à nouveau sur l'intérêt de protéger le patrimoine et une prise en compte de tout ça un peu différente des partenaires qu'on avait il y a un an sur le sujet. Voilà, c'est le côté positif.
Sur la protection, je mets juste d'ajouter une chose. J'ai travaillé pendant plusieurs années avec Carole Parec, qui est conservateur des antiquités et objets d'art dans le Rhône, et qui a notamment pour mission d'instruire les dossiers d'inscription et de classement. Et elle s'était occupée du patrimoine de l'Observatoire de Lyon. Et à la fois, c'était complètement inhabituel, puisque c'était des objets qu'ils n'avaient jamais envisagés en inscription et en classement. Et la Commission régionale des monuments historiques était à la fois surprise, un peu démunie parce qu'elle ne connaissait absolument pas les objets, et en même temps ravie parce que ça les changeait considérablement du mobilier d'église, calices, statues et autres crucifix qui sont leur quotidien.
Je peux juste faire une remarque quand même. Je vous ai entendu dire la conservation pour le synchrotron. Finalement, l'ensemble de l'action par rapport au budget global, c'est peanuts. Le problème majeur des laboratoires, c'est que ça n'est pas une réalité dans le cadre du labo normal, qui n'est pas un grand instrument. Et ça pose un réel problème parce qu'il n'y a pas les mètres carrés, il n'y a pas l'espace, il n'y a pas de personnel pour s'en occuper, etc. Et ça, c'est une réelle difficulté, en fait. Parce qu'on... Enfin, ça fait des années qu'on demande aux universités de débloquer ne serait-ce qu'un minimum, mais qu'on n'obtient pas.
Je partage complètement votre point de vue. Ma réaction sur Peanuts, c'était pas... tant sur le synchrotron, parce que ça coûte un peu quand même ça, c'était sur la politique générale dans un laboratoire. C'est-à-dire qu'avec un peu de volonté, comme le disait Daniel, et un budget régulier, on peut faire une politique. Après, quand il s'agit de faire un gros aménagement comme ça, c'est pas peanut, ça coûte, ça, c'est évident. Hein. Mais une politique, c'est du temps de personnes, un petit budget... ou un budget correct, et on arrive vraiment à faire un travail derrière.
Je crois qu'il ne faut pas raisonner laboratoire par laboratoire. Les laboratoires, ils font partie d'une université ou du CNRS. L'université, globalement, quel est le budget d'une université? C'est quand même plus de l'ordre du milliard. Le milliard de banques, même epsilon d'un milliard, ben voilà. Bon, exactement. Donc je crois qu'il ne faut pas... Si on raisonne de façon complètement parcellaire, évidemment, ça ne peut jamais marcher. Mais s'il y a une volonté de politique, des directions générales, on peut avancer. Ce n'est pas facile, je sais bien que ça sera... On sait bien tous, on l'a vécu, tout, ce n'est pas facile. Mais ça peut avancer beaucoup mieux. Et c'est un peu aussi l'objet de cette conférence, au fond, c'est que chacun prenne ses responsabilités son compte, et travaille globalement, parce que c'est pas chaque labo qui va prendre un boulon dans son tiroir et puis le conserver. C'est pas ça.
Oui, bonjour. Je voudrais réagir un peu sur ce que vous... Excusez-moi. En fait, justement, sur ce qu'il s'agit des grands objets comme ça, et la protection au niveau du mobilier ou des monuments historiques, je ne sais pas. Comment ça se passe? Parce que la problématique de l'espace dont les laboratoires ou les entreprises ont besoin, je suppose que ça pose des contraintes de garder les objets sur place. C'est une obligation qu'ils ont de... Non, mais dans le cas où un objet de cette taille-là a été classé, contre la volonté ou avec la volonté, je ne sais pas, comment l'objet doit rester sur place, obligatoirement?
euh, je reprends la parole. Oui, mais Marie Cornu, on a un petit peu parlé ce matin. En fin de compte, elle n'est pas allée au fond des choses. Alors, il faut acheter le livre ou aller la semaine prochaine aux entretiens du patrimoine qui seront donc à Paris et qui seront pendant 2 jours essentiellement sur justement la loi de 1913, l'anniversaire de la loi. Sinon, oui, il y a deux types de protection. Il y a la protection immeuble et la protection meuble. Et les deux ne sont pas liés. C'est-à-dire que le meuble n'est pas attaché à l'immeuble. Donc, il est déplaçable, à moins qu'il soit indéplaçable. Hein. Donc, voilà. Donc, ils deviennent ce qu'on appelle, dans le jargon juridique, un immeuble par destination. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, il est indéplaçable. Mais là, il y a encore une... Je reviens sur ce sujet-là, parce que c'est le sujet essentiel, c'est la propriété, en fin de compte. Et par exemple, ce que je voulais... Tout à l'heure, j'avais levé la main pour rajouter à ce que vous venez de dire. En fin de compte, il n'y a jamais eu de problème de difficulté de protéger des instruments scientifiques. Chaque fois qu'on a présenté des instruments dans des commissions, c'est passé à l'unanimité la plupart du temps. Daniel Toulouse a présenté des calculateurs qui étaient aconites d'ailleurs. Hein. Voilà, il n'y a jamais eu de problème, même pour des très gros instruments. Le seul problème, c'est après, faire l'arrêté de protection et savoir qui est le propriétaire. Par exemple, je peux vous dire, observatoire, pour revenir à un autre observatoire qui est l'observatoire de Besançon, une lunette méridienne à peu près équivalente de celle que vous présentez au musée des Confluences, ben, y a un problème parce qu'au moment de la construction, il y a eu un contrat qui a été fait. La ville payait les bâtiments et l'État payait les instruments. Ce qui fait que pour les instruments, les piliers sont propriété de la ville et l'instrument est propriété de l'État. Ce qui fait que l'arrêté, 2 ans après la Commission nationale des monuments historiques qui avait voté à l'unanimité la protection, ben, il n'est pas pris. Voilà la difficulté dans laquelle on est. Mais sinon, le sujet est pas le sujet est à chaque fois est plutôt salué par nos collègues. Allez vers eux parce que c'est pas eux qui iront vers vous. Allez vers les conservateurs des antiquités objets d'art, donc qui sont à l'échelle départementale ou la DRAC au niveau régional. Il y aura pour la plupart du temps jamais de problème.
Juste une question, mais c'est plutôt pour Jean Davoigneau. Est-ce que le classement au monument historique implique des contraintes pour le propriétaire de l'objet? Parce que moi, j'ai un exemple, notamment l'accès du public. C'est pas vrai. D'accord, bon. Ok.
C'est mieux, mais c'est pas, il n'y a pas de contrainte. En fin de compte, la contrainte, c'est de le garder. De le garder en état, et de signaler à l'organisme. Alors, quand c'est un objet public, une collection publique, enfin pas une collection, c'est pas une collection, mais qu'il appartient à un propriétaire public, le propriétaire public, là, dorénavant, à perpétuelle demeure. Quand c'est un objet qui est en main privée, il y a seulement l'obligation du propriétaire de signaler à la direction régionale des affaires culturelles. Les changements de propriétaire.
Oui,
il ne peut pas le mettre à la benne, par ailleurs. Il y a quand même une condition d'entretien, évidemment, relative d'entretien. Mais par exemple, la plupart des instruments scientifiques du type électroaimant, on n'est pas dans l'idée de le garder en état de fonctionnement. Hein. On est dans l'état de le garder en état tel qu'il était au moment de la protection.
Oui, mais enfin, là je sors du cadre du CERN, je pense à ma vie ancienne. L'observatoire de Haute-Provence, à terme, ou le radome de Plumeur-Baudoux, on passe quasi systématiquement par des opérations ouvertes au grand public, au-delà, tout simplement parce que ni l'État, ni le propriétaire n'a les moyens d'entretenir les bâtiments, l'objet, etc. Je ne connais pas d'exemple de gros instruments qui soient restés comme ça, où il a disparu, ou alors on a essayé de faire quelque chose autour.
Euh, Les deux exemples que vous avez cités sont intéressants. Pleumeur-Baudou, c'est protégé monument historique. On ne sait pas quoi. Pleumeur-Baudou, c'est protégé monument historique. Mais c'est l'extérieur, en quelque sorte, qui est protégé monument historique. Après, on peut mettre autre chose dessous. Quant à l'Observatoire de Haute-Provence, il y a eu une démarche de protection. La Commission régionale du patrimoine et des sites a émis un avis favorable, encore une fois, quasiment à l'unanimité. Mais là, il y a un problème. On ne sait pas quoi réellement, jusqu'où aller dans la liste de ce que l'on protège, parce que là, c'est toujours un lieu de recherche. Et donc, est-ce qu'on pourra construire de nouvelles coupoles? Est-ce qu'on peut changer l'aménagement des coupoles, etc., etc. Donc, en fin de compte, là, l'arrêté n'a pas été pris, par exemple.
Je peux, en complément de tout à l'heure de Jean, et en réponse à Gérard Chouteau, c'est pas du tout pareil le label collection Musée de France et MH, hein, inscription, classement MH. Donc c'est vrai qu'avec, dans le code du patrimoine, avec le label Musée de France, il y a des contraintes de valorisation et de sécurité, bon, de conservation évidemment, c'est évident, qui sont totalement différentes. Hein. Donc c'est peut-être ça que tu voulais savoir. Ce n'est pas du tout les mêmes contraintes. Hein. Ce n'est pas du tout la même façon d'envisager les choses. Et là, on parle de collection. D'accord ?
Je sais pas, il y en a beaucoup pas... Ah, pardon.
On fait du ping-pong, là. C'est la question universitaire des collections que je connais bien. Il n'y a qu'une manière de gagner dans les universités, c'est de passer par l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a des objets, on a des choses, il faut absolument les montrer au public, il faut absolument que ça passe dans le journal. Avec Audrey, maintenant, je dirais. Il faut devenir incontournable, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut que ça gagne à... Puisque des universités, des choses comme ça. Bon, ben, Grenoble est venu un certain nombre de choses. Rennes n'est pas tellement connue. Un ou deux secteurs. Gagner par l'extérieur, c'est, enfin, alors là, ça demande de l'énergie du bénévolat, hein, c'est sûr, mais c'est comme ça qu'on peut gagner. Ça renforce l'identité, puis après bon, on va voir notre président en disant bah, écoutez, ce poste-là, Audrey, elle est sur un contrat de 2 mois, on pourrait peut-être la passer sur un contrat d'un an, et puis au bout de 3 ans, on pourrait peut-être la CDIser. C'est un peu des petits pas, mais il ne faut pas se décourager.
Justement, je sais qu'on a beaucoup parlé de la conservation, du classement. Très bien. Justement, ce qui est important aussi, c'est de voir comment on peut arriver à ces moyens-là et avoir une politique dans ce domaine. Or, tu parles de passer par l'extérieur, oui, effectivement, mais c'est aussi souvent comme par des expositions, par une valorisation des objets qui ensuite convainc les autorités d'aider et d'intervenir, quoi, et de prendre, d'intégrer cette politique dans leur programmation. Est-ce que vous avez des questions dans ce domaine aussi? Parce qu'il me semble que c'est vraiment ça, les actions à mener dans des tas d'opérations de culture scientifique, en tant que support de culture scientifique, etc. On a eu les exemples de Lyon, on a eu les exemples de... Bon, tes électroaimants, tu ne nous as pas dit, qu'est-ce que... Là, tu fais l'histoire avec, tu reconstruis, et après, qu'est-ce que tu vas en faire? Et non, je veux dire, quelle valorisation tu vas leur donner?
L'électroaimant de Weiss, bon, à ce moment-là, nous, on peut parler de Weiss, ce qui est quand même un grand physicien de magnétisme, qui est venu à Rennes. Bon, d'accord, il est parti parce que au moment de l'affaire Dreyfus, il y avait des manifs antisémites. Il y a tout un contexte. Mais, bon, bah, ça fait partie des grands physiciens. Et bon, il y a on peut, à partir de cet appareil, développer un certain nombre de choses, même sur l'histoire d'une ville. À Rennes, par exemple, il n'y a plus de lieu où quelqu'un arrive et veut connaître l'histoire de la ville. Eh bien, je ne sais pas comment c'est à Grenoble aussi, il y a peut-être. C'est pareil. Dans les villes, maintenant, il n'y a plus beaucoup de lieux où on peut avoir l'histoire des villes. Alors que quand on prend l'histoire de Rennes, eh ben, l'université et la ville, c'est quasiment la même chose. Tous les maires ont été, enfin presque tous les maires ont été universitaires. Donc là, ça peut être aussi un moyen, quoi. Enfin bon.
Non, mais moi j'ai une question à poser par rapport à ça. Par rapport à ces gros électroaimants, il y a eu des industriels qui ont développé derrière. Par rapport à l'informatique, il y a eu des industriels aussi. Est-ce que vous n'arriveriez pas à les associer d'une façon ou d'une autre à la valorisation du musée ou de la présentation? Est-ce que ces industriels, par exemple, existent encore? Non? C'est plus embêtant. En informatique?
Pour l'informatique, il y a deux cas. Soit l'entreprise a disparu, soit elle existe encore. Mais comme il l'a été fort bien dit ce matin, aujourd'hui, on est dans une dynamique de production, de marché. Et lorsque vous en parlez à Apple, je me souviens quand nous avons fait notre exposition sur les interfaces de calcul homme-machine, leur centre de marketing avait quitté Paris pour Londres. Ils m'ont répondu: vous voulez nous aider à vendre notre prochaine machine? Non, ça peut vous aider énormément, oui, en effet, parce que le principe de voir d'où elles viennent... Non, on ne s'est pas compris. Ça va? Et aujourd'hui, il y a une forte pression. Vous savez ce qui se passe dans le monde de l'informatique. Donc, nous avons mis en route une action qui consiste à dire à l'entreprise: vous avez une longue histoire qui a été gommé à certains moments par des modifications de structure financière. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous vous appeliez X, après vous êtes appelé Y, aujourd'hui vous êtes Z. Mais il est peut-être intéressant que, pour faire du lien à l'intérieur de l'entreprise, le sentiment d'appartenance, de faciliter aussi la venue de jeunes cadres dans votre entreprise, qu'autour d'un objet significatif, l'on puisse à l'intérieur de l'entreprise parler, au même titre que l'on rencontre autour d'une fontaine l'histoire de la ville et de l'université, quoi, pour reprendre ton exemple. Donc nous avons pris contact et une réunion est organisée entre les constructeurs au printemps pour aborder dans quelle sens on peut le faire. Il faut dire que la période est un peu plus favorable parce que Mme Fioroso et M. Bayetto avaient lancé il y a 2 ans une opération qui consistait à demander à Jean-Pierre Verjul, fondateur de l'INRIA sur Grenoble, un rapport sur l'évolution de l'informatique et surtout comment arriver à faire que Grenoble ne soit plus une ville nano, mais une ville aussi informatique et nano, parce que c'est la vraie difficulté. Donc aujourd'hui, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, il faut de la politique, il faut du temps, on peut penser que le moment politique s'approche. Conjonction favorable, comme diraient les associations. Et c'est là-dessus que nous rêvons beaucoup, bien sûr, pour 2014.
Merci.
J'avais une question. Dommage.
Ma remarque est liée à la remarque que le collègue Dorine vient de faire, c'est la valorisation quand on a une opération patrimoine. Ma réflexion est la suivante. Dans le fond, il y a un phénomène qui a été lancé il y a à peu près une vingtaine d'années par un ministre, Hubert Curien, à propos de la fête de la science, ou science en fête et tout ça. Et 20 ans après, en tout cas sur Grenoble, mais je sais que c'est vrai aussi ailleurs, et en Rhône-Alpes en particulier, je suis assez frappé de voir qu'on ne se pose plus la question, on y va, les universités, les centres de recherche et tout ça, on y va. Et grand Dieu, les sites, la multiplicité des sites, j'ai fait cette année en l'espace de 2 jours, mais je n'en ai fait qu'un. Et la question ne se pose plus. Du coup, ma remarque est la suivante. Et si on associait des opérations patrimoine à cette opération fête de la science? En tout cas, Philippe, je prends un exemple que tu avais monté l'année dernière avec le fardier de Cugnot. Qui est parti de la place Go et qui s'est rendu. Mais c'était extraordinaire comme succès. Bref,
on associe la science qui avance et aussi le patrimoine. Il y a des familles, et là, il y a un aspect pédagogique qui doit être non négligeable. C'est un commentaire, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, ou le collègue de Gypsalam ? Est-ce que tu en as parlé, toi ?
Oui, justement, bon, je peux rebondir, et puis j'ai une autre question, enfin une remarque. Sur la fête de la science, nous, tous les ans, on se pose la question d'y aller, parce que il y a des motivations de la part des chercheurs, mais il y a les difficultés d'organisation, il y a les difficultés de soutien de la part des tutelles, et ce qui fait qu'on donne de plus en plus de notre temps, le week-end, etc., et qu'on a des fois des problèmes de valorisation, dans le sens où on n'est pas forcément très soutenu par les tutelles. Donc chaque année, c'est un problème. Cette année encore, on était au Village des Sciences. On se pose la question de repartir sur les campus pour éviter les gros problèmes de transport de matériel et puis de logistique un peu plus compliquée. Mais la fête de la science, c'est pas évident quand même. Ça nécessite du travail sans soutien vraiment fort. Moi, j'avais une remarque sinon sur les fondations, parce qu'on a dit comment financer la valorisation, la médiatisation. Depuis donc les fameuses RCE, responsabilité aux compétences élargies, il a été prévu que les universités s'adossent à des fondations qui pourraient éventuellement, j'imagine, avoir un rôle dans ce sens-là. Et moi, je fais partie d'une petite université qui est l'université Stendhal, qui n'a pas beaucoup de moyens et qui n'a pas de fondation encore, qui veut, je crois, en développe une. Comment on peut voir l'articulation de la valorisation avec les fondations qui pourraient s'adosser aux universités, si vous avez des idées. C'était une question-remarque. Je ne sais pas si des gens ici ont des idées sur le rôle des fondations.
Depuis 20 ans, toujours, c'est toujours les mêmes. C'est vrai qu'ils ne participent pas à la fête de la science. Ils se plaignent de ne pas avoir de moyens, etc. Mais enfin, bon, par les bonnes volontés, ça continue. Mais je crois qu'après, on en revient toujours au même. C'est une question de politique globale des établissements.
Et les fondations, alors, on a parlé de la Suisse ce matin, avec les fondations qui sont un peu différentes de la... J'imagine de ce qui se passe en France, mais.
Effectivement, nous on a créé une fondation en Suisse, mais. D'après ce que je sais, il n'y a pas ce même concept en France. En fait, en Suisse, il y a aussi des fondations de grande envergure qui ont beaucoup de moyens, etc., et qui distribuent de l'argent comme vous avez en France. Mais il y a la possibilité de créer des fondations qui sont en fait des entreprises sans but lucratif, quoi, mais qui sont des petites fondations. Il ne faut pas croire que parce qu'on est une fondation, on a beaucoup d'argent. C'est pas du tout ça.
Arrêtez cette discussion, à moins qu'il y ait vraiment encore quelques questions fortes.
Chambay, Université de Rennes. Donc, du point de vue des présentations des collections, donc soit sur l'externe, comme disait Dominique, vis-à-vis du Village des Sciences, donc qui marche très bien depuis plusieurs années. Cette année encore, nous étions le plus grand village au niveau national. Il y avait à peu près, je crois, plus d'une quarantaine de stands. Avec une fréquentation du week-end de 9000 personnes et 1600 scolaires le vendredi. Donc voilà, c'est un grand investissement. Sinon, moi, ce que j'aurais souhaité préciser, c'était aussi la visibilité en interne au sein de nos universités. C'est-à-dire que ça va faire également 3 ans maintenant que nous ouvrons les collections ou alors nous faisons une exposition lors des portes ouvertes de l'université. Donc ça nous permet d'être visible auprès des collègues chercheurs ou représentants de différentes licences ou masters, etc. Montrer que l'on existe, que l'on accueille des stagiaires, qu'on peut intervenir pour des prêts lors d'enseignements ou ces choses-là. Et également susciter l'intérêt des futurs étudiants à l'université, donc les lycéens et autres. Là, ce samedi, il y a la journée européenne des collections universitaires. Donc là, c'est dans le cadre de Universeum, donc un réseau des universités qui possèdent des collections scientifiques et techniques. Donc là, également, nous ouvrons les collections. Donc ce sont des visites guidées sur réservation, journée du patrimoine, bien évidemment, et nuit des musées. Donc effectivement, le fait d'ouvrir les collections, ça nous permet d'être connus, d'être reconnus, et ainsi avoir différents partenaires. Voilà.